Les marchandes de sable, conte turc, de Adelaide Uzunoglu Ocherbauer et Anne George. Prince Husnu Yusuf. Il y a bien longtemps vivait un sultan, dont la fille était d'une grande beauté. Un jour, éprouvant une indicible tristesse, la jeune princesse en fit part à sa gouvernante. « Ce n'est rien, princesse, » la consola la gouvernante. « Prends ce métier à broder, ça te distraira. » La jeune fille commença une broderie. Un matin, alors qu'elle travaillait à sa fenêtre, elle vit un oiseau blanc se jeter sur ses ciseaux, puis les emporter à tire-d'aile. Longtemps après, le souvenir de l'oiseau continua de hanter les pensées de la princesse. Il était à nul autre pareil. Quelque temps plus tard, rôdant de nouveau à la fenêtre, elle s'interrompit un instant pour donner libre cours à ses rêveries. C'est alors que le même oiseau réapparut. Cette fois, il s'empara de son dé. Jour après jour, la princesse devint de plus en plus mélancolique. La broderie fut enfin achevée. Ce jour-là, tandis qu'elle regardait pensivement par la fenêtre, la princesse vit soudain l'oiseau blanc s'abattre sur son métier à broder et l'emporter. La pauvre créature perdit le boire et le manger. On fit venir tous les médecins du royaume, mais aucun ne connaissait le mal qui rongeait la princesse. Au dernier qui se présenta, la jeune femme confia : « Je suis malade d'amour. » Allez dire à mon père que sa fille a besoin de partir en voyage, mais absolument seule. C'est l'unique moyen de lui faire recouvrer la santé. » Et elle offrit au médecin une bourse remplie d'or. Le médecin s'exécuta. Le sultan eut du mal à surmonter ses craintes, mais il finit par se résoudre. N'y allait-il pas de la santé de sa fille bien-aimée ? La princesse prit quelques objets de valeur, renonça à tout ce qui était lourd, puis elle s'en alla. Elle marcha des mois, escaladant des montagnes, traversant des vallées, ne prêtant attention ni aux précipices, ni aux parois rocheuses, ni aux fleuves tumultueux, recherchant désespérément l'oiseau blanc, sans jamais le trouver. Un jour, elle arriva dans une ville, au bord de l'épuisement. Incapable d'aller plus loin, elle décida de s'y installer et, avec l'argent qui lui restait, elle fit construire des bains publics. Ces bains seraient gratuits et réservés exclusivement à ceux qui avaient vécu une aventure et accepté d'en faire le récit. Très vite, la nouvelle se répandit et les bains publics connurent une grande affluence. Cette région avait aussi son Kéloglan, autrement dit un jeune homme chauve et très rusé. Il habitait dans un village où il ramassait du bois de chauffage qu'il venait vendre à la ville. Un jour, alors qu'il venait vendre à la ville et qui s'apprêtait à rentrer chez lui, il passa devant les bains publics. Intrigué par la foule qui s'y pressait, il voulut en connaître la raison et se fraya un chemin jusqu'à la porte. Aussitôt, les moqueries fusèrent. « Ha ha ha, Kéloglan ! Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver qui vaille la peine d'être raconté ? Ici, pas question de bain gratuit si tu n'as pas une histoire. » Sur le chemin du retour, le jeune homme chauve se grattait la tête, méditant sur ce qu'il avait entendu. Quand il arriva le lendemain au village, il dit à sa mère « Maman, lève-toi, nous allons prendre un bain à la ville. » La mère répliqua « Tu es fou ? Faire 2 jours de marche rien que pour prendre un bain ?»« Mais maman, » protesta Kéloglan, « c'est dans des bains publics où les bains sont gratuits. Il suffit de raconter une histoire qui nous serait arrivée. » La mère demeurait sceptique. Mais l'entêtement de son fils vint à bout de ses réticences. « Eh bien !» finit-elle par dire. « Allons-y !» Ils marchèrent toute la journée, puis vint la nuit. « Allonge-toi sous cet arbre pour dormir !» dit Kéloglan à sa mère. « Moi, je vais me caler sur une branche. » La lune était haut dans le ciel. On y voyait comme en plein jour. Soudain, le garçon entendit des bruits. « Clic-clir, clic-clir !» Il songea que la terre tremblait et commença à frissonner de peur. C'est alors qu'il vit passer 40 chameaux, 100 caravaniers, Il décida de les suivre discrètement. Quelques instants plus tard, les chameaux parvenaient devant une grotte. La porte s'ouvrit d'elle-même et les animaux pénétrèrent à l'intérieur, déposèrent leur chargement de pierres précieuses, puis repartirent. Alors que Kelloglan restait bouche bée, il vit arriver trois oiseaux. Deux restèrent en bas de la grotte, mais le troisième alla se poser à l'étage. « Celui-là doit avoir ses raisons », se dit le jeune homme chauve, et décida d'aller voir de plus près. Caché derrière la porte entrouverte, il assista à un étrange spectacle. Au milieu de la pièce, il y avait une cuvette d'eau dans laquelle l'oiseau venait de plonger. Il en ressortit, s'ébroua et d'un coup se métamorphosa en un jeune homme aussi beau que la lune au 14e jour. Il ouvrit un buffet, retira un coffret dans lequel il prit des ciseaux, un dé et un métier à broder. Le visage baigné de larmes, il embrassa ses objets en s'écriant d'une voix plaintive. « Ah, ma princesse, où es-tu ? Depuis 6 mois, ton palais est tendu de noir et mon cœur se languit de toi. » Quelques instants plus tard, le jeune homme replaça le tout dans le buffet, redevint un oiseau et s'envola. Le jour commençait à poindre. Le Kelloglan courut réveiller sa mère et ils se remirent en route. À aucun moment le garçon ne dit mot sur ce qu'il avait vu. Ils arrivèrent enfin devant les bains publics et durent jouer les coudes pour traverser la foule et pénétrer dans le bâtiment. Alors qu'ils se déshabillaient, la princesse, dissimulée derrière un mouchard à biais, les remarqua et les interpella. Un instant, savez-vous que ces bains sont réservés à ceux qui ont une aventure à raconter ? Hélas, répliqua la femme, je doute fort qu'il puisse être passé quelque chose dans la vie de mon garçon. Moi, par contre, je peux vous dire que... Et elle se mit à énumérer tout ce que le chauve lui faisait endurer. Ce n'est pas vraiment une aventure, dit la princesse, mais comme tu viens de loin, je te permets de prendre un bain. Se tournant ensuite vers le jeune homme chauve, elle demanda. Et toi, Kelloglan, qu'as-tu à raconter ? Il répondit. Comme tu peux le voir, je n'ai pas un poil sur le caillou et aucune femme ne veut de moi. À ces mots, la princesse éclata de rire. C'était la première fois depuis des mois. Elle lui fit signe de s'approcher. Mais ce n'est pas tout, reprit le Kelloglan. Et il se mit à conter dans les moindres détails son aventure de la nuit précédente. Sa mère intervenait sans cesse. Ma fille, ne crois pas un mot de ce qu'il raconte, disait-elle. Ce n'est qu'un menteur, un fabulateur. Cette histoire était vraie, je l'aurais vue moi aussi, on était ensemble. Mais la princesse était captivée par l'histoire et rien ne pouvait détourner son attention. Lorsque le Kelloglan évoqua le vol de 3 oiseaux, dont l'un était blanc, la princesse s'évanouit. Tandis que l'on essayait de réanimer la jeune femme, la mère du Kelloglan flanquait des coups de babouche à son fils. « Qu'as-tu dit, misérable créature ? » hurlait-elle, « pour que la dame se trouve mal ?» La princesse revint à elle et demanda aussitôt « Kelloglan, où es-tu ? Raconte-moi la suite !» Quand il évoqua l'épisode de la cuvette, la métamorphose de l'oiseau en un beau jeune homme, l'histoire des ciseaux, du dé et du métier à broder, la princesse s'évanouit à nouveau et la mère se déchaîna de plus belle sur son fils. On réussit une nouvelle fois à réanimer la princesse, qui aussitôt implora le garçon. « Kelloglan, pour l'amour du ciel, conduis-moi sur le champ à l'endroit où tu as vu l'oiseau. Pour te remercier, je t'offrirai ces bains publics. » À ces mots, la pluie de coups de babouche sur le chauve s'interrompit brusquement. Pourtant, sa mère ne croisait toujours pas à cette histoire. Le Kelloglan accompagna la princesse jusqu'à la grotte, puis arrivé devant la porte, il la laissa seule. La nuit était tombée. Dans l'obscurité, la princesse n'était pas rassurée, mais rien n'aurait pu l'éloigner de là. Soudain, il y eut du bruit. 40 chameaux sans caravanier arrivaient devant la porte de la grotte, qui s'ouvrit d'elle-même. Ils déchargèrent leur fardeau à l'intérieur et repartirent. Sitôt après, 3 oiseaux pénétrèrent à leur tour dans la grotte. 2 restèrent en bas, le troisième vola à l'étage. La princesse le suivit, se cacha derrière une porte. Elle vit l'oiseau blanc se baigner dans une cuvette d'eau, s'ébrouer, puis se métamorphoser en un beau jeune homme. Il ouvrit ensuite un buffet et sortit un coffret. Lorsqu'il prit le ciseau, les dés et le métier à broder, elle l'entendit s'exclamer avec désespoir. « Ah, ma princesse, où peux-tu être ? Depuis 6 mois, ton palais porte le deuil de ta disparition. »« Je suis là !» lança la jeune fille, se précipitant vers lui. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Toute la nuit, ils restaient réveillés à bavarder. Quand le jeune homme vit le jour poindre, il s'écria. « Pour l'amour du ciel, ma princesse, personne ne doit nous voir ici. Sache encore que je suis moi aussi fils de roi. 7 jours après ma naissance, je fus enlevé par des fées, et depuis, mes parents sont plongés dans le plus profond chagrin. Mon pays est à 9 mois de marche d'ici. Je vais te prendre sur mon dos et t'y conduire. Depuis des années, plus personne n'a le droit d'entrer dans le palais. Mais si tu dis « Au nom du prince Ousnou Youssouf, ouvrez-moi », on t'ouvrira la porte. Encore une chose, si nous devions donner naissance à un enfant, donne-lui le nom de Batiar. » Le prince prit la jeune fille sur son dos, redevint un oiseau et prit son envol. Ils volèrent longtemps, très longtemps. Près de 9 mois plus tard, ils arrivèrent enfin dans le pays du prince. Celui-ci déposa la jeune fille non loin du palais, lui expliqua le chemin, puis s'en alla. Devant la porte du palais, la jeune fille demanda à entrer. Malgré son insistance, la porte restait close. Elle finit par dire « Au nom du prince Ousnou Youssouf, ouvrez-moi » D'un coup, une agitation inhabituelle anima l'intérieur du palais. On informa séance tenante la reine qui accourut. C'est la première fois en 20 ans, dit-elle d'une voix étranglée par les larmes, que quelqu'un se présente au nom de mon fils. Vite, ouvrez la porte à cette jeune fille, qu'on lui prépare une couche dans la grange. La journée, la jeune fille travaillait au palais comme servante. La nuit, elle dormait dans la grange. Elle était souvent le souffre-douleur des autres serviteurs du palais, mais elle endurait tout avec patience. Une nuit, elle fut prise de douleur et mit au monde un garçon. La reine songea alors. Cette fille craint peut-être d'être seule. Dorénavant, une servante dormira auprès d'elle. On désigna une servante. Elle était sourde. Quand la nuit tomba, la jeune fille se mit à chanter une berceuse pour endormir son enfant. Je vivais insouciante à la cour de mon père quand l'amour me frappa comme un coup de poignard. Hélas, pas un médecin ne sut me guérir. Ah, mon Batiar, Dieu merci, tu es né. Mon corps n'était qu'un berceau de larmes, par toi il s'est consolé. En cet instant, on frappa à la fenêtre. Un oiseau blanc vint et dit « Mon Batiar dort-il ? Puisse-t-il reposer un jour dans un lit brodé de roses ?» Sur ce, il s'envola. Le lendemain matin, la servante courut informer la reine. « Par le ciel, maîtresse ! » s'exclama-t-elle. « Cette fille a parlé pendant la nuit avec quelqu'un sans que je sache qui. Il faut la jeter dehors !» La reine songea. « Attendons de savoir avec qui cette fille parlait. » Elle remplaça la servante par une autre, qui n'était point sourde, mais devait feindre de l'être. La nuit venue, faisant semblant de dormir, la servante entendit la jeune fille chanter. Je vivais insouciante à la cour de mon père quand l'amour me frappa comme un coup de poignard. Hélas, pas un médecin ne sut me guérir. Ah, mon Batiar, Dieu merci, tu es né. Mon corps n'était qu'un berceau de larmes, par toi il s'est consolé. J'étais assise devant mon métier à broder quand un oiseau vint et embrassa mon cœur. Seul le kéloglan apaisa mon chagrin. Ah, mon Batiar, Dieu merci, tu es né. Mon corps n'était qu'un berceau de larmes, par toi il s'est consolé. Tandis que la jeune fille chantait la berceuse, l'oiseau blanc arriva et dit « Mon Batiar dort-il ? Puisse-t-il reposer un jour dans un lit brodé de roses ?» Puis il s'envola. La servante avait tout entendu. Elle n'avait pas compris le moindre mot. Elle attendit le matin avec impatience, puis courut chez la reine. « Au nom du ciel, ma reine, je suis incapable de dire ni avec qui cette fille a parlé cette nuit, ni ce qu'elle a dit. Le mieux, c'est que vous vous en rendiez compte par vous-même. » La nuit suivante, le roi et la reine se cachèrent derrière la porte de la grange et tendirent l'oreille. À nouveau, la jeune fille entonna sa berceuse. « Je vivais insouciante à la cour de mon père quand l'amour me frappa comme un coup de poignard. Hélas, pas un médecin ne sut me guérir. Ah, mon Batiar, Dieu merci, tu es né. Mon corps n'était qu'un berceau de larmes, par toi il s'est consolé. J'étais assise devant mon métier à broder quand un oiseau vint et embrassa mon cœur. Seul le kéloglan apaisa mon chagrin. » Ah, mon Batiar, Dieu merci, tu es né. Mon corps n'était qu'un berceau de larmes. Par toi, il s'est consolé. Une grange est maintenant mon palais. Des servantes sourdes m'infligent leur présence. Dors, mon Bafir bien-aimé. Mon corps n'était qu'un berceau de larmes. Par toi, il s'est consolé. Envahi par une émotion soudaine, le roi s'adressa à la reine. Cette malheureuse est une fille de roi. Pensez à toutes les misères que nous lui avons fait subir jusqu'à présent. C'est alors qu'on frappa à la fenêtre. L'oiseau était là. Mon Bafir dort-il? Puisse-t-il reposer un jour dans un lit brodé de roses? Et tristement, il ajouta. Oh, cruel parent, vous n'avez pas encore compris. Et vous n'avez toujours pas installé ma princesse dans notre chambre nuptiale, ni couché mon fils dans le berceau en or, au drap brodé de roses. Le roi et la reine furent comme frappés par la foudre. Ils comprenaient enfin. Aussitôt, ils firent préparer, dans la chambre de leur fils fermée depuis 20 ans, le lit pour la jeune princesse et le berceau en or pour l'enfant. Mais une question continuait de les tarauder. Réussirait-il à mettre la main sur l'oiseau? La nuit suivante, l'oiseau trouva la grange vide. « On ne les aurait quand même pas chassés » s'inquiéta-t-il, à moins qu'on les ait conduits à l'intérieur du palais. Trouvant la fenêtre de sa chambre ouverte, il entra. La jeune fille et l'enfant dormaient. Il retira sans bruit son vêtement de plume et redevint un jeune homme. C'est alors que ses parents pénétrèrent dans la chambre. Ils virent leur fils dépouillé de ses plumes d'oiseau. Leur première réaction fut de jeter les plumes dans le feu. « Gardez-vous-en !» s'exclama le jeune prince. « Sinon, vous me perdriez à jamais. Si vous souhaitez me sauver, fermez toutes les portes du palais, afin que personne ne puisse entrer. Demain, vous allumerez un grand feu sur la montagne et vous y jetterez mes plumes. 40 servantes noires et 40 blanches se lamenteront et prieront de désespoir. Prince Husnu Yousuf s'est jeté dans le feu. Prince Husnu Yousuf s'est jeté dans le feu. Pour essayer de me sauver, tous les oiseaux frais de la terre se précipiteront dans le feu. Ce sera pour moi la fin de leur maléfice. » Le lendemain, tout se déroula conformément à la volonté du prince. À la fin, tous les oiseaux fées se jetèrent dans le brasier. Le jeune homme était délivré. Des messagers portèrent l'heureuse nouvelle aux parents de la jeune fille qui accoururent. Les noces durèrent 40 jours et 40 nuits et le prince et la princesse connurent une longue vie de bonheur.